Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Merci d'être en notre compagnie en cette fin de matinée pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour la deuxième partie du compte-rendu du Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan qui s'est tenu le 22 septembre dernier dans ce petit village de la Nièvre. Au programme aujourd'hui, des reportages enregistrés avec quelques-uns des auteurs présents. Et nous avons tendu notre micro à Sandra Amani, qui nous informera de ses prochaines publications aux éditions Temps Impossible. Et puisque je cite les éditions Temps Impossible, nous aurons l'occasion de découvrir cette maison d'édition et quelques-unes de ses publications variées. Maison d'édition qu'a créée et dirige Dominique Vallet, que nous avons rencontré pour vous et que vous entendrez dans ce numéro de Wagon Livre. Et puis nous reviendrons sur les nourrices du Morvan avec Noël Renaud. Et nous ouvrons cette émission avec Marie-Gilles pour deux de ses récents ouvrages, Te souviens-tu maman ? Et un roman intitulé La lettre. Sans tarder, donnons la parole à Marie-Gilles, rencontrée lors du Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan. C'était le 22 septembre dernier.
Je suis née en Algérie. Et en Algérie, comme beaucoup de gens, en 62, j'ai pris la fuite. Et je me suis installée d'abord à Marseille. Et ensuite, j'ai fait une partie de ma vie à Marseille. Et puis un jour, j'en ai eu assez. Et je suis venue m'installer dans Avignon-sur-Verdon. J'ai ouvert un magasin de laine fil d'art que j'ai tenu 5 ans, comme ça. Puis après, au bout de 5 ans, j'en ai eu assez aussi, et j'ai travaillé pour une société italienne, et j'ai vendu du linge et de la vaisselle pour tous les hôtels 4 étoiles, les grands établissements, entre Lyon et la Moselle. Donc c'est là où il y a le plus de grands établissements. Et puis la boîte a fermé un jour et n'en pouvant plus, elle a arrêté. Et moi, je me suis retrouvée comme ça, sans boulot. Et peu à peu a germé pour moi l'idée de m'installer dans le Verdon, dans le Morvan, parce que pour moi, j'aime beaucoup cette région, j'aime les gens. Et j'ai commencé à écrire. Mais je ne savais pas que j'étais capable d'écrire des romans. Hein. J'étais dans une autre problématique. J'ai fait une école d'ingénieur et donc j'étais plutôt une matheuse. Donc rien à voir avec les romans. Mais j'ai découvert ça et j'adore.
Alors, entre les mains, Marie-Gilles, ton dernier texte, récit autobiographique, Te souviens-tu, maman ? Un hommage à la maman qui t'a éduqué en Algérie.
Voilà, et que j'aime énormément parce que d'abord on se ressemble, on a toujours été complices. Je sais tout de la vie de maman. Donc quand on a fêté ses 94 ans, je lui ai écrit un texte. Et ce texte a ému tout le monde et on m'a dit « Mais fais un livre sur la vie de maman puisque tu connais tout ce qui est arrivé dans sa vie, tu es bien capable d'écrire un roman. »
Alors, puis-je te demander justement de nous lire les toutes premières lignes de ce récit autobiographique.
D'accord. Alors, maman, aujourd'hui tu as 95 ans. Au crépuscule de ta vie, à l'âge où l'on commence à oublier certains détails de son passé, tu te souviens de chaque instant de ton existence, moment heureux ou malheureux. Il n'y avait pas seulement du courage et de la grâce chez toi, mais aussi une prodigieuse énergie. J'ai eu envie d'écrire ton parcours afin que tes descendants sachent quelle femme merveilleuse tu as été ta vie durant. Pardon d'avoir osé, mais quand on a le bonheur d'avoir une maman aussi lumineuse que toi, on a envie que le monde entier sache qu'il existe quelque part des êtres d'exception. Notre complicité ne date pas d'hier. Depuis que j'ai atteint l'âge de comprendre les problèmes des adultes, je suis restée ta confidente. Tu ne m'as jamais rien caché. Il m'a été facile de coucher par écrit ton histoire de par tes évocations. J'ai tiré sur le bout du tricot de ta vie et tout s'est démaillé. Ton enfance fut dure, ton adolescence ne fut pas meilleure. Ton destin d'épouse avait le goût amer du renoncement et de la résignation. Résignation, c'est le mot qui vient tout de suite à l'esprit. Quand j'évoque ta vie, ton absence de rébellion face à toutes les attaques que tu as dû supporter sans jamais te plaindre. La vie t'a cassé, tu l'as subi, tu ne laissais rien paraître afin de protéger tes enfants. Je ne t'ai jamais vu pleurer, cela ne veut pas dire que tu n'avais pas de chagrin. Tu devais réserver tes larmes à ton oreiller la nuit pour ne pas nous attrister. Mais moi, j'ai toujours su que ce que tu endurais, ta détresse devant les difficultés de la vie et le peu d'argent dont nous disposions, ne pouvait pas te libérer de ton carcan d'assujettissement et de ton état de dépendance vis-à-vis de ton mari. Le bonheur, tu l'as enfin connu le jour de la naissance de ton premier enfant, puis d'autres naissances sont venues embellir ta vie. C'est aussi grâce à toute la tendresse que tu nous as donnée que nous jouissons aujourd'hui d'un si bel équilibre. Tu nous as transmis l'amour du prochain, le pardon, la compréhension, la compassion, le courage, l'énergie, la passion des animaux et tant d'autres choses que nous avons eu le bonheur de recevoir de toi et dont nous sommes si fiers. Je te remercie pour le beau cadeau que tu m'as fait en me mettant au monde. Je ne pourrais pas te donner tout ce que la vie ne t'a pas accordé, mais ce qui est sûr, c'est que tu as reçu de tous tes enfants plus d'amour que ton cœur ne pouvait en contenir.
Marie-Gilles, à l'instant au micro pour un livre hommage à sa mère. Te souviens-tu, maman, disponible dans les librairies de la Nièvre essentiellement, mais aussi dans Lyon, aux éditions Réalité du Morvan. Nous la retrouvons dans quelques minutes pour un roman intitulé La Lettre, qui fait pénétrer le lecteur dans les remous de la guerre d'Algérie et ses conséquences à travers l'histoire d'amour de deux jeunes gens. Place à une pause musicale et nous vous retrouvons pour la suite de Wagon Livre consacré au compte-rendu du Salon du Livre de Saint-André en Morvan où nous nous sommes rendus le 22 septembre dernier. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Je ne suis pas. Y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Oh, oh Laura, j'aurais tant à apprendre de toi. Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas. J'ai pour mon respire sans abri ni foi ni loi. Ce qui m'a fait vivre était en moi. Des caresses et des sourires, j'ai souvent passé mon tour. Je n'ai jamais appris à donner tant d'amour. Le temps passé me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne et tant de place pour toi. Oh, oh Laura, petit rien du tout m'étant pour moi. Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas. Yeah. regard. Oh, oh, Laura. Oh, Laura.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
En cette fin de matinée sur Radion, votre rendez-vous littéraire vous donne un aperçu des auteurs présents lors du Salon du Livre de Saint-André en Morvan du 22 septembre dernier. Sans plus tarder, retrouvons Marie-Gilles pour son roman La Lettre, un ouvrage qui aborde le drame des pieds noirs qu'elle a douloureusement vécu. Elle évoque à notre micro la manière dont les métropolitains percevaient les pieds noirs chassés d'Algérie après l'indépendance de 1962. Marie-Gilles.
Quand j'ai quitté l'Algérie, j'avais 16 ans et demi, 17 ans.
Tu as des souvenirs très forts de ton départ de l'Algérie.
Oui.
Comment tu as vécu ce départ de l'Algérie? T'as connu les violences ou vous étiez
oui,
dans une...
J'ai tout connu. J'ai même connu, on a échappé à un attentat. Et c'est ce qui a mis mes parents en émoi en nous disant... Ton frère, ta sœur et toi, vous allez partir parce qu'on avait 16, 17 ans. Et à cette époque, c'est très dangereux d'être en Algérie. Donc, ma mère nous a mis sur un bateau et on a abouti en France, rejeté par beaucoup de gens, surtout à Marseille, là où on a accosté. Et donc, ça a été pour nous très difficile le temps de retrouver mes parents, parce que nous étions en France, on était hébergés dans des hôpitaux, dans des centres, et mes parents étaient en Algérie. Alors on leur écrivait en disant « on est bien, on mange bien », alors qu'on mourait de faim. Et eux nous disaient « mais s'il n'y a pas de problème, on est tranquille, il n'y a pas d'attaque ». Voilà, on se mentait mutuellement jusqu'au jour où mes parents ont été mis dans un camion militaire et ils sont rentrés en France. Donc on est resté 3 semaines séparés, mais ça a été 3 semaines de tristesse, d'angoisse. Et puis après, ben, la vie a fait qu'on avait de la chance d'avoir du boulot à cette époque, hein, en 62. On a tous trouvé du boulot, on a eu... maintenant... On est tous ensemble.
Si tu me le permets, Marie, tu peux réévoquer quelques aspects de ton adolescence en Algérie ? Tu as eu des moments agréables, j'imagine, dans ce beau pays qui était département français, ne l'oublions pas.
Oui, j'ai eu, mais malheureusement, quand la guerre d'Algérie a démarré, j'avais 10 ans. Donc mon adolescence, elle a été complètement perturbée par la guerre, parce qu'on ne pouvait plus sortir. Par contre, mes 10 premières années, enfin, je me souviens des 5 premières années, où on avait notre maman qui était là, qui nous adorait et qui avait 7 enfants à s'occuper. Ça a été très pénible pour elle. Donc elle faisait des petits ménages, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que jamais on sente qu'on était pas vraiment la misère, mais qu'on était pauvre.
Il y avait le manque, il y avait du manque, quoi.
Voilà. Mais par contre, on n'avait pas de l'argent pour vivre décemment, mais on avait de l'amour. Et ça, l'amour, on peut pas le monnayer, c'était merveilleux. On a eu une maman merveilleuse qui nous a aidés à passer ce cap difficile de la guerre d'Algérie.
Mais si tu devais conserver de l'Algérie une couleur, un son, un parfum, qu'est-ce que tu pourrais dire?
Écoute, comme odeur, c'est l'été, il faisait très chaud bien sûr en Algérie, et vers 6 heures du soir, il y a l'arroseuse municipale qui passait. Et ça sentait la terre mouillée. Et ça, cette odeur, même ici, quand il a fait très chaud et qu'il pleut, j'ai tous ces souvenirs qui reviennent, où tous les enfants se mettaient au bord des trottoirs et puis on se faisait arroser. On arrivait à la maison, on était trempés comme c'est pas possible. Mais ma mère ne nous grondait pas. Elle disait, allez, on va se changer, c'est fini. Et on faisait ça tous les soirs, quoi.
Tu as eu des amies algériennes ?
Oui.
Et ça se passait très bien.
Ça se passait très très bien, mais le problème, c'est ce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, c'est que on se fréquentait comme ça quand on se voyait, mais on ne se recevait pas. Moi, j'ai habité en ville, donc dans la ville, il n'y avait pas beaucoup d'Algériens, quoi. Ils étaient dans leur quartier, mais il y a des villages où ça se faisait, les gens se recevaient, s'aidaient.
Dans les Mechtas, alors
Les Mechtas ou dans des petits villages. Mais nous, on n'a pas connu ça parce qu'on était en ville. Et en ville, il n'y avait pas beaucoup d'Algériens qui venaient quoi, chez nous. On se voyait, mais on ne se fréquentait pas vraiment.
À 16-17 ans, lorsque tu te retrouves en France après l'indépendance de l'Algérie, qui finit par être proclamée des deux côtés, l'Algérie, c'était ton pays ? Est-ce que la France était devenue... Comment tu te sentais ? Tu te sentais français ? Tu te sentais une Française d'Algérie ?
On te faisait
sentir que tu n'étais pas une vraie Française.
Quand on était en Algérie, nous, la France, c'était notre rêve. La France, je me souviens, quand on prononçait Paris, on en avait la chair de poule. On était français, mais jusqu'au bout des doigts. La Canebière, c'était le rêve américain pour certains. Pour moi, c'était le rêve de Paris, Marseille, toutes ces grandes villes. Moi, je me suis toujours sentie française, vraiment française.
Et où étais-tu en Algérie, géographiquement ?
À Oran.
Oran même ?
La deuxième grande ville d'Algérie. Après Alger, il y avait Oran. Donc, si vous voulez, il y a, comme en France, il y a Paris, Lyon et Marseille. Eh ben nous, on était donc Alger, Oran et Constantine. On était... Chaque département avait ses spécificités. C'était... Mais on se sentait français.
As-tu affronté des regards étranges quand on savait que tu venais d'Algérie ?
Ah oui.
Par les Français de métropole, je veux dire, après 62, 63, 64. Oui,
tu
as des souvenirs forts de cela ?
Je vais te raconter une anecdote qui m'a toujours bouleversée. Quand on est rentré d'Algérie, on nous a dit à Marseille, on ne vous veut pas, vous allez où vous voulez, mais on ne vous veut pas. Ma sœur connaissait, elle avait un petit amoureux qui habitait à La Rochelle. Elle a eu tort de lui dire oui, on a quelqu'un à La Rochelle. Et elle dit vous allez partir à La Rochelle. On nous a donné un billet de train, on est parti et on est arrivé à La Rochelle à 11h30 du soir. On est arrivé à la gare et il n'y a personne qui nous attendait, bien sûr. Et on était là et le chef de gare nous dit qu'est-ce que vous faites là ? Alors on lui explique d'où on venait, qui on était. Et il m'a dit écoutez, je vais téléphoner au préfet, on ne peut pas vous laisser dormir dans une gare. Et le préfet est venu, il a emmené son chauffeur et c'était un mec merveilleux. Et le chauffeur nous a pris et nous a emmené dans le village où était la famille d'un truc. Et ça, j'ai trouvé, ça nous a beaucoup émus, quoi. On sentait bien qu'on était... À La Rochelle, on n'a jamais eu d'amis, jamais. Personne ne m'a dit, tu es jeune, tu as 17 ans, tu vas sortir, on va sortir, on va... Non, non, jamais.
Mais en fait, sur la quatrième de couverture du roman La Lettre, il est écrit « La manière dont nous étions perçus par les Français de métropole, braillards, vulgaires, assassins, naïfs, gros colons, illettrés. Que sais-je encore ?»
Oui.
C'était vraiment ça.
C'était vraiment ça. Ouais. Et je ne suis pas seule à dire ça, parce que moi j'ai vécu ça, mais il y a des tas de gens. Quand nous avons quitté La Rochelle, les voisins nous ont dit « Excusez-nous, parce qu'ils fermaient les portes et les fenêtres quand on passait dans la rue. » Et bien, quand on est parti, ils nous ont dit « Pardon, parce qu'on ne pensait pas que vous étiez des gens comme ça. On s'est méfié de vous alors que vous ne le méritiez pas. »
Marie-Gilles, au micro de Wagon Livre, enregistré au Salon du Livre de Saint-André en Morvan le 22 septembre dernier. Marie-Gilles qui n'a pas oublié son Algérie natale et la ville d'Oran où elle a vu le jour. Je rappelle que Marie-Gilles a publié de nombreux romans régionalistes. Mentionnons La vie de Cécile à Ampurie, Le toit des chevaux, La dame du canal, Claire, jeune fille du Morvan, Albert le serin, flotteur à Clamcy, et signalons un ouvrage qui fait autorité sur le sujet, Alger 1892-1962, Les transports urbains, paru en 2013 aux éditions Sutton. Nouvelle escale musicale avant d'aborder le thème des nourrices du Morvan avec Noël Renaud. Excellente fin de matinée sur Radion. Vous écoutez Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Présidente de l'association Nourrice du Morvan, Noël Renaud a écrit de nombreux articles et ouvrages sur ce sujet. Cette passionnée collecte photographies, lettres, documents écrits et témoignages oraux sur ce métier et sur les femmes qui l'ont exercé. Elle a récemment fait paraître Nourrice, Nurses et Gouvernantes aux éditions Sutton et nous l'avons rencontrée au Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan le 22 septembre dernier et nous lui avons demandé d'évoquer la vie quotidienne des nourrices morvandelles que le destin a souvent fait basculer de la plus humble chaumière du Morvan aux hôtels particuliers les plus luxueux. Noël Renaud.
Je suis originaire du Morvan, je suis née à côté du lac des Sétons et ma famille est implantée depuis 10 générations dans le Morvan.
Alors, on te connaît bien en Bourgogne et même dans les frontières hexagonales parce que tu es une des spécialistes des nourrices morvandelles. C'est un sujet qui te tient à cœur, plus de 30 ans de recherche qui ont donné lieu à des conférences, des publications et de nombreux livres, Noël.
Oui, je suis au 8e ouvrage.
Alors, le tout dernier, je l'ai entre les mains, c'est aux éditions Sutton, tu restes fidèle à ton éditeur. Et cet ouvrage a pour titre « Nourrice, nurse et gouvernante ». Tu n'avais donc pas encore tout raconté sur les nourrices du Morvan ?
Non, et donc c'est mon éditeur qui m'a demandé d'étendre, bien sûr, les nourrices du Morvan, puisque je retrouve à l'heure actuelle toujours des photos, des documents. Puisque quand on fait un livre, les gens sont très gentils, mais ils vous disent « il est pas mal votre dernier livre, mais il n'y a pas ma grand-mère dedans, ou mon arrière-grand-mère ». Ah bon, alors votre grand-mère, arrière-grand-mère était nourrice ? Ben oui, vous avez des photos, vous avez des anecdotes, ben oui, je peux aller vous voir, ben oui. Alors donc j'ai mis dans cet ouvrage les dernières nourrices du Morvan que j'ai retrouvées et mon éditeur Sutton m'a demandé d'étendre un petit peu aux nourrices d'ailleurs, donc nourrices espagnoles, portugaises, italiennes. Et puis les nourrices ont disparu, mais les grandes familles ont toujours des gouvernantes pour élever leurs enfants. Bien sûr, ces gouvernantes n'allaitent plus, mais on a toujours des gouvernantes en Suède, en Italie, en Allemagne, etc. Donc il a fallu que j'étende un petit peu le sujet.
Alors, tu as dû aller chercher des informations, où les puisses-tu ?
Alors, j'ai beaucoup de contacts avec des musées en Italie, en Espagne, en Allemagne, puisque... En Espagne, il y a également un musée des nourrices au nord de l'Espagne, puisque les nourrices du nord de l'Espagne allaient à la cour de l'Espagne. Donc j'ai beaucoup de correspondance avec la conservatrice. En Italie, au nord de l'Italie, à Belluno, il y avait aussi beaucoup de nourrices qui allaient à Rome ou ailleurs. Donc ces conservatrices m'ont prêté aussi des documents pour les nourrices d'Italie ou d'Espagne, par exemple.
Est-ce à dire qu'il y a en France d'autres musées consacrés aux nourrices ? Alors je pense à ce récent musée des nourrices du Morvan à Aligny-en-Morvan, que l'on connaît bien, pas très loin du lac des Sétons, là où le jeune Jean Genet a passé une partie de son enfance. Oui. Tu y as contribué d'ailleurs.
Oui, alors j'ai contribué à toute la partie nourrice, les nourrices du Morvan qui partaient à Paris ou ailleurs, dans l'aristocratie, la bourgeoisie. Mais à Aligny aussi, il y a toute une partie consacrée à l'assistance publique.
Alors, que veut dire faire une nourriture ?
Alors, une nourriture, c'est avoir un bébé en Morvan et c'est partir pendant 2 ans à Paris ou ailleurs et pour nourrir un bébé de l'aristocratie ou de la bourgeoisie.
Est-ce que tu as eu accès à des témoignages écrits des nourrices ? Est-ce que les nourrices savaient écrire ou est-ce qu'elles ont écrit après coup ? Parce que pour certaines, rentrer dans de grandes familles aristocratiques, ça a été aussi une chance parfois
absolument,
pour elles.
Voilà.
Est-ce que tu peux apporter une nuance et est-ce que ces nourrices ont été heureuses ?
Alors moi je pense, et c'est un peu mon cheval de bataille, je pense que ces nourrices, c'est aussi le début de l'émancipation de la Morvandelle. Quand elles arrivent au château, elles parlent patois, elles sont mal habillées, elles sont en sabots. Et souvent, madame disait, nounou, est-ce que vous voulez apprendre à lire et à écrire avec les précepteurs des châteaux ? Donc j'ai plusieurs exemples de nourrices qui vont apprendre à lire et à écrire au château Et à partir de là, elles vont pouvoir communiquer en Morvan. Alors elles envoient des lettres à leur mari qui est resté là-bas, qui lui ne savait pas forcément lire et écrire, mais qui se faisait traduire par une secrétaire de mairie ou quelqu'un d'autre.
Ou l'instituteur ou
l'instituteur,
le curé du village,
par exemple.
Peut-être.
Donc ça, je pense que c'est vraiment le début de l'émancipation de la Morvandelle.
Une chance pour ces femmes ?
Oui, oui, oui. Et en plus, elles vont voyager partout dans le monde. Parce qu'on dit la nourrice va à Paris, elle ne va pas qu'à Paris. Moi, j'ai des nourrices qui vont en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Chili. J'en ai deux qui vont au Chili. Vous imaginez le voyage. Par exemple, il y en a une qui monte à Paris. Monsieur est consul au Chili. Donc, on part de Paris, on va à Bordeaux. On prend un bateau à Bordeaux et on va se retrouver à la pointe de l'Amérique du Sud, à Ushuaia. Le bateau tombe en panne et tout le monde se retrouve à dos d'âne et de cheval pour rejoindre la côte du Chili, pour rejoindre la capitale. Donc c'est extraordinaire pour ces femmes. Elles vont avoir, quand elles reviennent en Morvan, celles qui reviennent ont des choses extraordinaires à raconter.
Noël, peux-tu nous dire pour quelles raisons la Morvandelle était si prisée dans ces familles de haute bourgeoisie ou de l'aristocratie, voire royale peut-être parfois ?
Oui, aussi, bien sûr. On a toute la famille d'Orléans qui a embauché pas mal de nourrices du Morvan, les Rothschild, etc. Plusieurs facteurs ont joué. La qualité du lait. Les nourrices Morvandelles étaient réputées pour la qualité de leur thé, de leur lait. Femmes celtes. Bon, il y avait aussi des nourrices bretonnes, mais ce sont aussi des celtes. Mais la proximité de Paris a joué, 250 km. Donc c'est pour ça qu'elles ont été recrutées. La qualité du lait, la proximité de Paris. Et puis elles étaient réputées pour leur beauté. La famille Rothschild avait envoyé des meneurs ou des meneuses à carrer les tombes. Et on voulait d'abord, pour le bébé, recruter une belle nourrice. Parce qu'on s'imaginait que le bébé devait déjà ouvrir les yeux sur des belles femmes, sur la beauté, etc. Donc on a trois critères.
Il y a dans ton dernier livre, dont je rappelle le titre, hein, « Nourrices, nurses et gouvernantes » aux éditions Sutton, il y a un chapitre intitulé « Nounou et Piu-Piu, un couple idéal à la belle époque ».
Voilà.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Parce que, alors ça c'est surtout à Paris, les nourrices se réunissaient dans les squares, donc les Morvandelles, les Bretonnes, les Normandes, etc. Et comme c'était des belles femmes, elles étaient très courtisées par les militaires. Donc les militaires tournicotaient autour des nounous. Il y avait aussi des femmes célibataires, hein, des nourrices qui avaient eu un bébé, qui étaient célibataires. Et certaines vont trouver leur futur mari dans les squares. Et là, c'est un ami qui s'est beaucoup intéressé à cette période, qui a fait ce chapitre sur les rapports de la nounou et du piou-piou. Depuis la guerre 14 jusqu'à nos jours.
Évoquons les rapports de la nourrice avec la famille qui l'a embauchée. C'est une domestique très privilégiée.
Oui, absolument. Donc, ça n'est pas la femme de chambre, ça n'est pas la lingère, etc. Donc, elle arrive au château, on l'habille de pied en cap et elle ne fait que s'occuper du bébé, que le nourrir. Elle a une femme de chambre qui s'occupe d'elle.
Elle est bien nourrie, souvent ?
Elle est bien nourrie, puisque à petit déjeuner, à 10 heures, collation. À midi, on lui choisit les meilleurs morceaux. À 4 heures, recollation. Et puis le soir, bon repas. On lui fait boire de la bière, du vin, pour qu'elle ait du bon lait, etc. Donc on les voit grossir au fil des photos aussi.
Alors, j'en connais la réponse, mais pourquoi les femmes de la haute bourgeoisie ne voulaient-elles pas elles-mêmes prendre soin de leurs enfants ? Je connais la réponse, mais
oui.
C'est une question très légitime finalement.
Voilà, parce qu'on reçoit beaucoup de château en château, on n'a pas besoin de s'encombrer d'enfants, donc c'est pratique d'avoir une femme qui vient nourrir vos enfants au château, et puis on n'a pas envie de s'abîmer la poitrine. Donc voilà, c'est pour ça que les gens de l'aristocratie et de la bourgeoisie voulaient recruter une nourrice du Morvan ou d'ailleurs.
Et pendant combien de temps une nourrice prend-elle soin d'un enfant ? Est-ce que ça peut être plusieurs années ?
Non, alors la nourriture c'est 2 ans. La nourriture, quand elle donne le lait, la nourrice c'est 2 ans. Et au bout de 2 ans, on passe l'enfant à une autre nourriture. Alors après, elle devient éventuellement nourrice sèche.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une nourrice sèche ?
Alors, la nourrice sèche, c'est la nourrice du Morvan ou d'ailleurs qui n'a pas envie de revenir en Morvan, hein, on le comprend, et elle n'allait plus, mais elle devient gouvernante, si vous voulez, gouvernante. Mais au bout d'un moment, il faut quand même quitter la place, parce que l'institutrice allemande va arriver, l'institutrice anglaise va arriver, et au bout d'un moment, il faut revenir en Morvan.
Noël Renaud à l'instant pour Nourrices, Nurses et Gouvernantes aux éditions Sutton, ouvrage bien évidemment disponible en librairie. Petite info avant la pause musicale, notez cet événement dans vos agendas puisqu'il s'agit du Salon du Livre de Migennes qui se tiendra le dimanche 13 octobre prochain de 10h à 18h à la salle des sports avec cette année 3 invités d'honneur. Lucie Brasseur pour Mi-Foot, un road trip au pays du football féminin. Gaëlle Piton pour La méditation, c'est la vie aux éditions First. Et Jean-François Nezo pour L'affaire Thomas Morici. Plus de 70 écrivains présents, 10 éditeurs, parmi lesquels les éditions Rhubarbe, L'Atelier des Noyers, La Gazette 89, les éditions de La Renarde Rouge, 5 associations représentées et bien évidemment 3 libraires. La librairie de Toussy, la librairie Joffac, la librairie Oblique d'Auxerre et Univers BD 89, donc présentes pour animer ce Salon du Livre de Migennes qui se tiendra le dimanche 13 octobre prochain. Vous écoutez Wagon Livre, votre émission littéraire, compte rendu aujourd'hui du Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci d'être avec nous. Je rappelle d'ailleurs que vous retrouvez sur le site d'archives de l'émission les références, les titres des ouvrages et les noms des auteurs sur notre site via internet www.yannickpetit.fr.
Marie-Lou repose sous la neige, et je me dis, et je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'île. De ma loupe en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mundi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous sur Radio dans cette fin de matinée, suite du compte-rendu du Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan. Et nous retrouvons Noël Renaud qui signe aux éditions Sutton, Nourrices, Nurses et Gouvernantes. Alors les jeunes Morvandelles, devenues nourrices au service de familles de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie, assurent ce que l'on appelle une nourriture durant environ 2 ans. Et à l'issue, la nourrice regagne son Morvan d'origine et sa famille. Alors comment se passe ce retour au pays ? Explication de Noël Renaud.
Ça se passe très mal. Donc elle revient au bout de 2 ans, cette nourrice. Elle n'a pas vu son mari depuis 2 ans, donc c'est compliqué de retrouver le mari qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. La belle-mère qui a remis l'emprise sur les enfants qui ont survécu, puisque une fois sur deux, l'enfant morvandio mourait. Quand la nourrice part, elle confie son bébé à soit sa belle-mère, soit à sa mère. On le passe le bébé au lait de chèvre ou au lait de vache, il attrape la diarrhée, une fois sur deux, il meurt. On a une mortalité infantile terrible. Si elle retrouve ses enfants, la nourrice, qui ont grandi, et ses enfants ne connaissent pas leur mère, donc ils en ont peur. Ils en ont peur, ils ne sont pas attachés à leur maman. On sait maintenant que les trois premières années sont très importantes pour les enfants. Donc la nourrice du Morvan ou d'ailleurs n'a qu'une envie, c'est repartir. C'est avoir un autre enfant et repartir à Paris ou ailleurs.
Et alors, il est vrai aussi que certaines chaumières du Morvan ont pris un peu d'éclat, se sont améliorées aussi grâce à l'argent des nourritures des Morvandelles. C'est de l'argent qui revenait dans le Morvan.
Voilà, on a toute une transformation économique. Les nourrices ont goûté aux châteaux, aux hôtels particuliers, donc elles ont envie, quand elles reviennent en Morvan, de faire améliorer l'habitat. On va faire carreler le sol de terre battue, on va élever les toitures et on va enlever les toits de chaume, qui brûlaient souvent, on va mettre des ardoises ou des tuiles, on va faire agrandir les ouvertures pour avoir plus de lumière, donc une transformation économique très importante.
Quel lien les nourrices conservaient-elles avec les enfants qu'elles avaient allaités? Est-ce que c'était une coupure définitive ou est-ce qu'il y a des exemples nombreux qui montrent un lien amical, respectueux de l'enfant allaité avec la nourrice?
Bien sûr, parce que la nourrice s'est attachée à l'enfant qu'elle a allaité. Et ces familles étaient très respectueuses de la nounou. Et moi, quand j'ai fait toutes ces recherches, j'ai d'abord contacté les familles du Morvan qui avaient une grand-mère, une arrière-grand-mère, etc., nourrice. Mais j'essaie aussi de vérifier, quand on me dit qu'elle était chez les Drebrezé, chez les Rothschild, etc., de vérifier. Donc je prends le bottin mondain, j'écris au chef de famille en lui disant, voilà, je fais des recherches, est-ce que aussi vous avez des documents sur telle nourrice, etc. Et ces gens-là ont toujours été très respectueux de leur nourrice.
Alors, dans ton livre, il y a une photographie en noir et blanc. On est au port du Havre. On voit l'explorateur Jean Charcot qui embrasse une dernière fois sa fille avant de la remettre à sa nourrice.
Oui, c'est une nourrice bretonne. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a prêté cette photo. Donc, non, les gens de l'aristocratie et de la bourgeoisie sont restés très attachés aux nounous.
Est-ce que le sujet des nourrices est maintenant, de ta part ou par d'autres personnes, largement épuisé? Ou est-ce qu'il y a encore des aspects que l'on pourrait explorer? Les investigations peuvent continuer et sur quels aspects?
Alors moi, quand je fais par exemple des salons du livre comme aujourd'hui, etc., je retrouve toujours une ou deux nourrices. Les gens me disent, ben oui, votre livre il est pas mal, mais il n'y a pas ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et j'en retrouve toujours. Donc bon, là c'est quand même le 8e ouvrage. Donc je vais peut-être pas en refaire un 9e, mais bon, je fais toujours des articles. Parce que les gens veulent que leur grand-mère ou arrière-grand-mère paraissent dans un ouvrage. Ça, c'est quand même fabuleux. Ils ont les photos chez eux, ils ont des portraits, mais quand ils voient la photo dans un ouvrage, c'est un peu miraculeux. La grand-mère est dans un livre. Et ça, c'est merveilleux.
Et toi, donc, tu as des ancêtres qui étaient nourrices. Oui. Tu as entendu des récits, des souvenirs, des anecdotes de tes grand-mères ou arrière-grand-mères, si
Alors,
tu les as connues?
Alors, mon arrière-grand-mère était nourrice. Elle avait été placée dans le Jura et à Paris. Monsieur était avocat. On avait un château en Auvergne, on avait un château dans le Jura. Et puis, mon arrière-grand-mère ne voulait pas en parler. Parce qu'elle avait été poussée par sa belle-mère à partir en nourrice. Et elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas quitter. Elle avait 5 enfants, elle ne voulait pas les quitter. Et elle en avait gardé une haine tenace contre sa belle-mère. Alors, elle ne m'en avait pas parlé. Mais les photos avaient disparu. Mon arrière-grand-mère, quand elle est revenue du Jura, avait brûlé toutes les photos la concernant. Mais je savais qu'elle avait été chez les Daligny, famille Daligny. J'ai pris contact avec M. Daligny dans le Jura et lui, il avait une photo de mon arrière-grand-mère dans le parc du château, etc. Mais 20 ans avant, ma trisaïeule, sa mère de mon arrière-grand-mère, avait aussi été nourrie chez les Drebrezé. Alors j'ai pris contact avec toutes ces familles et j'ai retrouvé d'autres documents, d'autres photos.
Donc c'était bien un métier à part et elles ne le faisaient pas toujours de leur plein gré?
Non, bien sûr, bien sûr. Mais le Morvan était tellement pauvre, elles avaient trouvé ce moyen de gagner de l'argent, comme les Galvachés partaient au mois de mai et revenaient.
Si vous désirez approfondir le sujet autour des nourrices du Morvan, vous pouvez consulter les ouvrages de Noël Renaud et notamment le tout dernier dont il a été largement question dans cette interview et qui a pour titre « Nourrices, nurses et gouvernantes ». Il est disponible en librairie aux éditions Sutton. Je rappelle que vous retrouvez toutes les références, les titres et les noms des auteurs sur le site d'archives de l'émission via Internet sur le www.yannickpetit.fr. On marque une dernière pause musicale et on se retrouve juste après avec Sandra Amani et Dominique Vallet pour évoquer les publications des éditions Temps Impossible.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Quel plaisir de retrouver Sandra Amani. Bonjour Sandra.
Plaisir partagé Yannick,
alors, Sandra,
bonjour.
Sandra, il faut que je vienne jusqu'à Saint-André en Morvan dans la Nièvre pour réussir à te faire une petite bise et pour te demander, au passage, puisque tu es sur le stand des éditions Temps Impossible, on va d'ailleurs en parler avec Dominique Vallet qui est avec nous, mais il aura la parole d'ici quelques minutes. Sandra, quelle est ta prochaine actualité éditoriale? Parce que sur Facebook, je vois que tu annonces beaucoup de choses, des photos, des commentaires, tu nous mets l'eau à la bouche avec des intrigues, de légendes.
C'est fait pour?
Bien sûr, là tu sais faire du teasing éditorial. Alors Sandra, ta prochaine actualité éditoriale, s'il te plaît.
Alors, j'ai écrit une trilogie des légendes du Morvan, mais dans cette trilogie, dont le tome 3 est publié aux éditions Temps Impossible, le tome 1 est épuisé. Donc Dominique, à mes côtés, m'a offert l'opportunité de le rééditer. Mais alors, cette réédition sera complètement différente. Alors, on dit bien réédition, parce qu'il y aura réécriture des textes. Puisque c'est vrai que finalement, le livre datait de 2007. Aujourd'hui, on est en 2019. Et je me rends compte que mon écriture a évolué. Et je ne suis plus du tout satisfaite de ce qui a été écrit dans le tome 1. Donc, j'aime les légendes, hein, bien sûr. Mais donc, je repropose une réécriture avec un ou deux textes inédits, des photos inédites également et une couverture toujours signée Pierre Labrousse, qui avait aussi signé celle du tome 3.
Sandra, est-ce à dire que le livre peut sortir en fin d'année pour les fêtes? On pourra le glisser sous le sapin?
Bien sûr, on va essayer de le faire sortir le plus tôt possible, mi-novembre peut-être, hein, et ensuite disponible avec des dédicaces pour les fêtes, effectivement.
Et ce sera donc aux éditions Temps
Impossible. Impossible.
Nous sommes bien d'accord. Puisque j'ai évoqué les éditions Temps Impossible, bonjour Dominique Vallet.
Bonjour Yannick.
Alors Dominique, le responsable de cette encore jeune maison d'édition, et quelle est la ligne éditoriale? Qui peut proposer ces textes?
Alors la ligne éditoriale, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y en a pas vraiment. Je publie par contre que des auteurs que je connais personnellement. C'est ça ma ligne éditoriale. Il faut que ce soit des auteurs que je connaisse et des auteurs avec qui j'ai sympathisé. Donc évidemment, il y a Sandra. On a un peu sympathisé, c'est vrai, mais il y en a d'autres comme Laurence Gault qui a écrit un livre magnifique sur son traitement du cancer, qui s'appelle Mort au crabe, qui va d'ailleurs être prochainement réédité dans une édition illustrée par rapport à la première édition. Et pour Octobre Rose, qui est, comme le mois d'octobre arrive bientôt, ben voilà, Octobre Rose revient aussi. Il y a Alain Blondelon aussi, que tu connais peut-être un petit
Absolument,
peu.
Absolument, Alain Blondelon, oui, oui.
Voilà, et notamment sa compagne Stélie, qui a coécrit un livre avec Sandra. Et il y en a d'autres aussi qui sont à venir, qui sont dans les tuyaux.
Alors, Dominique Vallet, aux éditions Temps Impossible, tu as brossé le portrait de Philippe Eblie. Tu peux revenir sur cette grande figure, s'il te plaît, et nous dire qui il est?
Alors, Philippe Eblie, c'est un écrivain de la Bibliothèque Verte, qui a démarré au début des années 70 et qui a écrit jusque dans les années 90 dans la Bibliothèque Verte, au moment où elle a changé d'orientation éditoriale et elle a cessé de publier des inédits. Et donc d'ailleurs, Temps Impossible vient de deux séries de Philippe Eblie qui a fait Les Évadés du Temps et Les Conquérants de l'Impossible. Et comme le premier livre qui est à l'origine devait être le seul, la biographie que je lui ai consacrée, Destination Philippe Eblie, j'ai utilisé ce raccourci de sa carrière.
Et ce joli sous-titre, donc Destination Philippe Eblie, c'est le titre
de cette biographie hein, qui revient sur son œuvre et son parcours, et le sous-titre « Celui qui nous emmenait si loin ». Alors je voudrais dire à nos auditrices et auditeurs que si en arrière-fond de nos propos ils entendent Vielle Morvandel, c'est que effectivement au moment où nous enregistrons, et pourtant nous sommes un petit peu à l'écart dans une pièce à côté du salon, eh bien il y a quelques musiciens morvandiaux qui offrent du son local. Sandra d'ailleurs pourrait les rejoindre pour danser une petite bourrée morvandelle. Mais je préfère
j'espère
qu'elle reste
bien,
auprès de
j'espère
nous.
Bien, j'espère bien qu'elle le fera.
Alors parlons de La lueur de vivre de Dominique Vallée aux éditions Temps Impossible. Ça se passe un soir d'Halloween. Et comme l'émission est diffusée fin septembre, on peut peut-être mettre un peu d'éclairage sur Halloween. La lueur de vivre, Dominique, court texte.
Oui, alors c'est un recueil de nouvelles qui sont souvent, on va dire, à la lisière du fantastique. Et celui, le texte qui se passe donc un soir d'Halloween, qui s'appelle La nuit des monstres, est en fait surtout une histoire consacrée au harcèlement et à la différence qui n'est pas toujours très bien acceptée dans notre société. Et donc là, c'est l'histoire d'un enfant malade qu'on prend pour un vampire et donc on martyrise à cause de ça, parce qu'il a la peau très blanche et qu'il est malade, il vit isolément.
Alors ce qui est formidable, Dominique Vallée, c'est que Dominique Vallée écrit des textes littéraire, oui. Mais c'est aussi un créateur de bande dessinée, un fanat de BD. Et tu m'as dit d'ailleurs que tu proposes des travaux dans des revues de bande dessinée bien établies et bien connues, et que parfois quand on te demande d'écrire, eh bien on te regarde de manière un petit peu hautaine parce qu'on dit bah oui mais finalement c'est un BDiste.
Oui, ben voilà, mais c'est parce que beaucoup de gens considèrent que quand on fait de la BD, on ne sait pas forcément écrire. Moi en fait j'ai écrit avant de faire de la BD. Et c'est un peu le résumé de ma vie, c'est-à-dire que je lis beaucoup de livres et beaucoup de BD, et donc j'ai un pied dans chaque domaine, et je lâcherai aucun des deux domaines sous aucun prétexte, parce que ça me résume bien, quoi.
Alors Dominique, avec Romain Gondy, donc, qui fait les dessins, et toi les scénarios, là j'ai entre les mains un album délicieux qui m'a fait beaucoup sourire et rire.
J'ai vu ça.
Fishman, donc c'est chez Temps Impossible, oui. Et beaucoup de séquences qui se situent à Auxerre, où l'on reconnaît moult monuments d'Auxerre.
Oui, Fishman est un personnage, c'est un adolescent qui aime, comme beaucoup d'adolescents, les super-héros. Il se fait mordre par son poisson rouge et il imagine, à l'instar de Spider-Man, que ça va lui procurer des super-pouvoirs. Donc il se coud un joli costume et commence sa carrière. Et là, les ennuis commencent parce qu'évidemment, il n'a pas de super-pouvoirs.
Alors ce qui est drôle, c'est la parodie. Oui. Il y a aussi tout un côté parodique, grotesque, la farce. C'est absolument délicieux. Plutôt adulte ou...
À partir de 8 ans, en fait. Et je dis pourquoi à partir de 8 ans, parce qu'il y a une petite anecdote, c'est que le dessinateur m'a dit à un moment donné, j'avais mis un gros mot, et il m'a dit, je veux que ma fille de 8 ans puisse le lire. Donc on a transformé, le personnage disait qu'il avait envie de pisser, c'est devenu, il a envie de tisser.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est vraiment à partir de 7-8 ans, dès qu'on sait lire, on peut s'amuser avec.
Et puis alors, toujours de toi, Dominique Vallée.
Mais là, tout seul.
Les héros sont ballonnés. Alors, c'est formidable parce que c'est une galerie de personnages qui viennent d'univers très, très variés. Télévision, bande dessinée.
Cinéma.
C'est cinéma, il y a Charlie Chaplin, oui. Il y a les dessins animés, la petite Heidi. Sandra, ça nous rappelle notre jeunesse. Heidi,
tout à fait.
Petite fille des montagnes. Toi, c'est petite fille du Morvan, en fait.
Des petites montagnes.
Et effectivement, les personnages sont ballonnés, ils sont tout ronds. Et là aussi, il y a un humour que je trouve totalement désopilant. Et ce qui est formidable aussi, ce sont les calembours, les jeux de mots, Dominique. Il faut les trouver tout de même.
Oui, mais ça remplit un peu ma vie. C'est-à-dire que je raconte beaucoup de bêtises. Et ben, des fois, je me dis, ben, si on les met par écrit, ça devient un peu plus drôle. Donc, ça permet que ça, de rester. Donc souvent, ben voilà, je note quand je pense à une bêtise, je la note et je la transforme en bande dessinée.
Et puis ce qui est remarquable, c'est la complicité, puisque ça demande tout de même de connaître ces personnages qui sont ballonnés, quoi, qui prennent une forme toute ronde. Donc la complicité avec la culture télévisuelle, cinématographique ou bédéistique de chacun, je ne sais pas, je suis peut-être
oui,
dans le néologisme
sûr.
Là.
Un petit peu.
Mais par exemple, là, venu au salon avec un jeune ami de 30 ans, il y a certains personnages que je ne connaissais pas, parce que lui est beaucoup plus branché cinéma. cinéma américain, lui me dit, ben oui, ça c'est une parodie de... Alors que moi, je n'avais pas reconnu. Donc je trouve qu'il y en a pour tous les âges. Là, il y a Nounours sur son nuage, là, avec mon ami Gros Ours, on balançait du sable pour faire dormir les enfants. Et donc Nounours dit, essayez, vous verrez, c'est marrant. Voilà. Et je trouve qu'il y a comme ça... Non seulement l'évocation d'une nostalgie, mais en plus l'humour et surtout la complicité qui touche chacun, finalement.
Oui, mais en fait, il y a plusieurs générations aussi, parce que à l'origine de ça, je faisais ça pour mes enfants. Donc, ils me demandaient souvent des personnages que je ne connaissais pas toujours. Et du coup, je me retrouvais à regarder des dessins animés avec eux. Souvent, c'était des trucs de dessins animés. Et ça m'a, du coup, un peu plongé dans l'univers de la nouvelle génération. Et ça a permis à l'album d'être transgénérationnel, puisque après j'ai fait aussi les personnages qui avaient illuminé ma génération à moi, qui est la génération de plein d'autres personnes également.
Dominique Vallée, comment se portent les éditions Temps Impossible ?
Elles se portent à merveille. Il se trouve qu'on fait des choix qui sont souvent les bons. Des fois on se trompe, il y a certains livres qui marchent un peu moins bien, mais globalement nos livres se vendent bien. Donc on peut les trouver effectivement sur les salons si on veut l'avoir dédicacé, mais je les vends aussi à travers un site internet, on peut même les trouver sur Amazon. Et pour ce qui concerne les livres que j'édite de Sandra, on les trouve dans un circuit de libraires de la région.
Alors vous serez au salon du livre de Migennes.
Exactement,
on sera tous les deux. On rappelle les dates peut-être, ça peut intéresser nos auditrices et auditeurs.
Je ne l'ai pas par cœur, mais j'imagine que vous la connaissez mieux que moi.
Dimanche 13 octobre.
Formidable Sandra.
Sandra est au courant très très fort de l'actualité des salons dans Lyon et en Bourgogne. Et puis de Sandra, je voudrais rappeler, là c'est une... Alors c'est pas chez Temps Impossible.
Non, c'est chez Vent du Morvan, présent également sur ce salon.
Alors une remarquable bande dessinée avec, je trouve, de somptueuses illustrations d'une jeune femme que tu estimes beaucoup, c'est Isa Piton.
Oui.
Et toi Sandra, tu as fait tout le travail... autour d'une bande dessinée qui rappelle l'histoire des 900 ans de la basilique Saint-Andoche de Saulieu. C'est très très beau travail
que
tu avais présenté l'an dernier à Saulieu.
Un travail très très ardu puisque ça m'a demandé beaucoup de recherches historiques. J'ai été aidée par des historiens, hein, dont un de mes amis, Sébastien Lambert, qui est prof d'histoire à Saint-Georges, à Auxerre. Mais par contre, j'ai dû adapter toutes les notes qu'il m'a envoyées, l'adapter en scénario. Et c'est vrai que j'ai été aussi aidée par Isa, qui est historienne, qui est plus historienne que moi, et Isa, qui souvent corrigeait certaines erreurs. Enfin, c'était un beau travail, Isa et moi, beau travail d'équipe.
Sandra, on sait que tu es enseignante au collège de Chablis.
Tes
élèves sont-ils tes premiers lecteurs ?
Pas forcément.
Pour failloter un peu avec la professeure de français.
C'est vrai que certains arrivent avec le livre en disant « Madame, j'ai acheté ça, vous pouvez me le dédicacer ?» Mais en fait, pas forcément. On va dire que j'aime bien cloisonner les mondes. Donc je cloisonne beaucoup mon boulot et mon travail d'écriture.
Sandra Amani et Dominique Vallée, enregistrés au Salon du Livre de Saint-André en Morvan le 22 septembre dernier au stand des éditions Temps Impossible. Édition Temps Impossible qui a un site internet que je vous encourage à aller découvrir parce que vous pourrez effectivement constater qu'il y a une grande diversité de publications, des textes, mais aussi... des bandes dessinées et c'est peut-être aussi une très très belle opportunité de faire des achats en ligne pour de beaux livres que vous pourrez glisser sous le sapin et offrir à Noël. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Je voudrais saluer Noël Renaud et Philippe Berthe-Langereau pour leur chaleureux accueil lors du Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan. Je voudrais également remercier Adrien, mon assistant, dont la présence a été particulièrement efficace et réconfortante. Et pour ma part, je vous rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de noter les références des titres des ouvrages dont il a été question dans les différents reportages proposés aujourd'hui, vous les retrouvez via internet sur le www.yannickpetit.fr. N'oubliez pas donc le Salon du Livre de Migennes dimanche 13 octobre prochain de 10h à 18h à la salle des sports avec cette année trois invités d'honneur, Lucie Brasseur, Gaëlle Piton et Jean-François Nézot, plus de 70 écrivains présents à Migennes, 10 éditeurs dont les éditions Rhubarbe, l'Atelier des Noyers, la Gazette 89, les éditions de la Renarde Rouge, 5 associations représentées et bien évidemment 3 libraires, la librairie Joffac de Toussy, la librairie Oblique d'Auxerre et Univers BD
89. Voilà, qu'on se le dise. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous samedi 12 octobre prochain, toujours à 11h sur Radion. Nous vous proposerons une émission avec Erwan Larère, émission enregistrée lors de la 12e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot. Et Erwan Larère signe aux éditions Kidam un roman intitulé « Pourquoi les hommes fuient ?». Pour vous donner le synopsis de ce roman, Jane a 21 ans, hyper connectée, elle vit au présent entre job d'hôtesse et menu larcin, boîtes et soirées branchées, ses amants d'une nuit et ses deux colocataires. Un soir, le hasard la jette malgré elle sur les traces de son père qu'elle n'a jamais connu. Est-il cette pop star dont on a perdu la trace, ce guitariste punk passé à côté de sa vie ou ce solitaire retiré de la compagnie des hommes? C'est au programme de Wagon Livre samedi 12 octobre prochain avec notre invité Erwan Larère. Pourquoi les hommes fuient? Et puis le 19 octobre, nous vous proposerons un entretien avec Christiane Rancé pour le dictionnaire amoureux des saints disponible aux éditions Plomb. Très bon congé de fin de semaine. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.